toi. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. When they've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canyon vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La Dame de Pique. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. En cette année 1830, Auguste Comte commence son cours de philosophie positive. Victor Hugo, Hermanie. Enquête, conquête de l'Algérie, monarchie menacée, publication des ordonnances, les croix glorieuses, chute et abdication de Charles X, Louis-Philippe Ier, roi des Français, révision de la charte, l'Arbé, la monnaie fonde l'avenir, émeute à l'occasion des procès des ministres de Charles X et chez des d'Ambert. Elisabeth montre à sa fille Émilie 10 ans son petit frère. Il est sur une table recouverte d'une couverture. Le bébé est nu.
Regarde Émilie, comme il est beau. On dirait un ange.
Émilie le regarde et voit qu'il a entre les jambes cette chose étrange. La mère prend l'enfant dans ses bras.
N'est-il pas beau, ce trésor? N'est-il pas beau? Je n'ai jamais vu un bébé aussi joli que toi. Oh mon Dieu, mon bibi, mon bibi.
Maman, dit Émilie les larmes aux yeux.
Oui, qu'as-tu? Veux-tu pas que je m'occupe de mon bébé? Va voir ta gouvernante. Allez,
j'ai ce petit trésor à m'occuper. Vas-y. Ans plus tard, c'est-à-dire en 1842, l'année de la mort de Stendhal, loi sur l'organisation des chemins de fer et le duc d'Orléans tué dans un accident de voiture. Le jeune homme, Félicien Lapierre, 25 ans, grand, mince, les cheveux châtains, visage sûr de lui, à 21h rentre dans l'hôtel des Deux d'Ambert, rue du Helder à Paris. Il est invité à un bal organisé par le maître de maison pour les 22 ans de sa fille, Émilie.
Je n'étais pas tout seul, madame la comtesse.
Ah bon, monsieur le lieutenant?
Non, nous étions 47, et surtout il y avait Mouzine.
Ah oui, bien sûr, Mouzine. Quel dommage, tout de même, je verrais bien.
Lorsqu'ils arrivent, il y a déjà beaucoup de monde.
N'écoutez pas. Mariana adore provoquer. Bon, eh bien, je crois qu'il est grand temps d'ouvrir le bal. Mais Stéphania, si tu n'as pas honte de danser avec un ministre, et vieux de surcroît.
Oh, cousin.
L'orchestre joue et l'on danse. Félicien n'a jamais connu Émilie, mais sa mère l'a très bien connue, la mère d'Émilie, qui a décédé. Et c'est pour cela qu'il a été invité. Félicien, un peu intimidé, se met dans un coin du salon où un domestique passe avec des verres de champagne, il en prend un. Non loin de lui, une jeune fille blonde, mince, le visage angélique, habillée d'une robe blanche, est assise après avoir congédié son danseur. Félicien la trouve très belle.
Oui, bien sûr, madame.
Il s'approche d'elle et ne sait pas vraiment comment l'aborder. Belle soirée, n'est-ce pas?
Oui.
La jeune fille le regarde surprise. Le maître de maison a bien fait les choses. Je crois que c'est pour l'anniversaire de sa fille. Vous la connaissez? Elle le regarde dédaigneuse et lui dit: mais qui êtes-vous pour ne pas connaître la personne à qui le bal est dédié? Oh, je suis Félicien Lapierre, et moi, Émilie de D'Ambert, la fille du maître de maison. Je vous prie de m'excuser, mais j'étais invité parce que ma mère connaissait votre mère. Bon. Eh bien, faites-moi danser. Mais ne me serrez pas trop près. Je vous le promets. Et il la mène danser.
Monsieur le président du conseil, je vous prie de bien vouloir excuser, je ne vous avais pas vu.
Une minute, pas si vite. Laisse-moi le temps de profiter de mon cigare.
Toute la soirée, ils sont restés ensemble.
Bien, ils vont bien, grâce à Dieu, monsieur le président.
Il n'y a que l'affaire de mon fils aîné qui traîne en longueur.
Je vais parler à Lopez, comme monsieur.
Elle s'est laissée courtiser. Il en a été heureux, car il la trouve très belle.
Ça pourrait aller mieux, monsieur le président. Disons que ça s'agite un peu trop à mon... Il se croit en France, et voyons. Je ne sais pas ce qu'on pense, monsieur, mais il parle de bon maintenant.
Oh, je suis dans la mesure où il se contente d'en parler.
Espagnol.
Puis,
monsieur le président, on aurait besoin
d'un homme quitte avec les derniers invités.
Cette racaille ou pas, à coup de pied là où je pense.
Pourrais-je vous revoir, demande-t-il. Oui, je veux bien. Venez mardi prochain pour le thé. Et Félicien, la quitte, heureux.
Réfléchis, ne crois-tu pas que le premier coup de pied de Mousignon serait pour moi et sans moi. Comment te débrouillerais-tu pour arrondir tes fins de mois, brave garçon?
Je n'y avais pas pensé, monsieur le président.
Eh bien, pense-y, ça arrive. Pense-y. Et sois prudent, ne les perds pas de vue. Nous en viendrons à bout, nous réglerons leur sort, tout seul. Attends, tiens.
Il habite chez sa mère, qui est veuve, dans un vieil hôtel boulevard Saint-Germain. Félicien est étudiant en droit et ne semble pas pressé de finir ses études. Le lendemain matin, ou plutôt quelques heures plus tard, il retrouve sa mère à la salle à manger pour le petit déjeuner. Madame Edmond Lapierre est une femme vieillie à l'avant l'âge. Elle est petite, maigre, les cheveux en chignon gris, le visage ridé, porte une robe sobre, noire. Félicien s'approche d'elle. Bonjour mère.
Bonjour mon fils.
Et il s'assoit en face d'elle. Pendant qu'il se sert, elle lui parle.
Alors, tu t'es bien amusé?
Oui, mère, et j'ai fait la connaissance d'Émilie de Dambière, une fille charmante.
Oui, charmante, mais avec un caractère dur. Pour le décès de sa mère, elle n'a pas versé une larme. C'est comme pour celui de son petit frère. Pareil. Pourtant, le pauvre petit est mort. En bas âge, elle l'a vu mourir.
Pauvre Émilie, assistée à la mort d'un bébé. Elle était seule avec lui dans la nurserie. Elle était incapable de dire comment il avait pu s'essouffler avec ses draps. Je la comprends. Elle a dû être terrorisée. Puis ça a dû être terrible pour elle. Elle a dû avoir un choc. Elle avait quel âge?
Je crois une dizaine d'années.
Et maintenant, elle vit seule avec son père?
Oui, il paraît, d'après les ragots, bien entendu, des domestiques.
Elle est très autoritaire avec son père. Pourtant, je l'ai trouvée très douce.
Félicien a attendu avec impatience que le mardi arrive. Il a pensé à elle toute la semaine. Enfin, à 15h, il sonne chez les deux d'Ambert pour le thé. Un domestique le fait entrer et le mène au salon. Il est surpris de voir qu'Émilie n'est pas seule. Il y a un homme, grand, fort, les cheveux gris, habillé d'une redingote, Marine. Émilie se lève et va vers lui. Bonjour Félicien, venez, je veux vous présenter à mon père. Ils vont vers le père. Père, je vous présente Félicien Lapierre.
Enchanté, jeune homme. Je connais très bien votre mère. Mais vous, j'ai dû vous voir une fois, lorsque vous étiez tout petit. Asseyez-vous, je vous en prie.
Il lui montre un fauteuil en face de lui. Et elle, va s'asseoir à côté de son père. Le père dit,
j'espère que vous amenez un peu de joie dans cette maison. Qui depuis la mort de ma femme en a bien besoin. Et ma fille a parlé de vous en bien. Nous allons faire servir le thé, si vous le voulez.
Il appuie sur la sonnette qui est derrière lui pour appeler un domestique. Pendant le thé, ils ont parlé de choses et d'autres. Des œuvres de Lamartine, des affaires politiques, mais pas trop. À cause d'Émilie qui est une jeune fille, de ce sacré Victor Hugo, de ce que fait Félicien et des broderies et pianos d'Émilie. Félicien voit qu'Émilie semble heureuse de le voir. Il en est touché. Puis, avant de partir, Émilie demande à son père si Félicien peut l'accompagner, car elle a beaucoup d'achats à faire sur les boulevards. Le père accepte. Ils se voient souvent pour le thé, les concerts, le théâtre, l'opéra. Comme Émilie est une jeune fille, elle profite de Félicien pour s'en servir de chaperon. Parce que son père sort guère. Le temps passe. Félicien est heureux et Émilie le semble aussi. Mais une ou deux fois, elle s'est décommandée, disant que son père ne veut pas qu'elle sorte. Un jour, Félicien la retrouve chez elle, en pleurs, dans son salon. Lorsqu'elle le voit arriver, elle se pend à son cou.
Il m'a battu.
Qui ?
Mon père.
Votre père ? Mais c'est impossible, un homme si charmant.
Ne croyez pas ça, si vous saviez tout ce qu'il me fait subir. C'est un monstre. Il me tuera.
Vous exagérez.
Vous verrez.
Calmez-vous. Il la prend dans ses bras et se retire d'un geste brusque. Il est surpris.
Pardonnez-moi, mais je suis si nerveuse. revenez plutôt demain. Il est parti 2 jours. Bien, puisque vous le désirez. Les autres jours, il n'est plus question de ce petit drame. Elle était trop nerveuse et irritable. Elle ne supporte pas qu'il lui prenne seulement la main. Il n'a jamais cherché ni à l'embrasser ou à faire un geste, et ses paroles sont irréprochables. Elle en a félicité.
Je vois bien avec vous que vous n'êtes pas comme les autres.
Je suis bien. J'ai l'impression d'être avec un ange, mon bon ange. Vous n'êtes pas comme les autres hommes.
Félicien a loué une chambre dans un immeuble près de l'hôtel de sa mère pour pouvoir être plus libre. La pièce est propre. Il y a aménagé des meubles. Son lit, armoire, bureau, chaise, bibliothèque. Les meubles sont style empire, car durant la Révolution, la famille a eu ses biens confisqués et à leur retour d'immigration, ils ont été obligés de se meubler. Il a donné à Émilie son adresse, si elle désire le joindre. Félicien est très amoureux d'elle et il la respecte et se plie à tous ses caprices. L'après-midi, elle se promène souvent au Luxembourg après les cours de Félicien. Elle aime les parterres fleuris du jardin. Un jour, en se promenant, elle lui dit « Je ne supporte plus mon père. Je ne supporte plus de vivre avec mon père. C'est un homme, il est comme tous les hommes. Il me dégoûte. Il me fait des scènes terribles. Quittez-le. Où irai-je ? Je n'ai pas de fortune, et pour une fille seule, c'est très mal vu. Mariez-vous ? » Elle fait la grimace. Non. Je peux vous le dire, vous êtes un ami pour moi, et vous ne faites pas partie de ces hommes. Je ne veux pas me marier, les hommes me dégoûtent. Cela attriste beaucoup Félicien, mais il se dit que toutes les jeunes filles doivent penser ainsi jusqu'au jour où elles trouvent l'être aimé. Et puis, Émilie est tellement belle qu'il ne la voit pas en vieille fille.
Vous dites cela parce que vous n'avez pas trouvé encore personne et que vous croyez que l'on ne vous aime pas, mais si un jeune homme bien vous aimait, je ne changerai pas d'avis. Les hommes me dégoûtent moralement et physiquement. Tous ? Oui. Et si moi, je vous aimais ? Elle lui sourit. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes mon ange. Je suis sûr que vous m'aimez, mais pas comme les autres hommes. Cela rassure tout de même un peu Félicien. Un après-midi, Félicien est dans sa chambre à étudier. L'on frappe à sa porte. Il va ouvrir. C'est Émilie. Surpris, car il n'est jamais venu le voir. Il la fait entrer et ferme la porte. Elle est toute pâle, essoufflée.
Qu'avez-vous ?
Mon père m'a violenté.
Comment, ce n'est pas possible?
Si, Malheureusement, il est ignoble, un criminel. Cela faisait des mois qu'il tournait autour de moi. Et ce soir, oh mon Dieu! Vous êtes sûr de ce que vous dites?
Oui.
C'est très grave, cette accusation. Mais si c'est vrai, je suis prêt à tout tenter. Je suis même capable de le tuer.
Je ne veux plus le revoir. Ce n'est plus mon père. Il est comme les autres hommes. Il ne voudra jamais que je me marie.
Lui, il lui dit, il n'a pas le droit de vous tenir sous sa coupe. Désormais, il prend le père d'Émilie pour l'obstacle à éliminer pour se marier avec elle.
Regardez ce qu'il m'a fait.
Et lui montre son bras avec des bleus et ses cuisses.
C'est un furieux.
Je vais le tuer. Il s'apprête à partir. Elle lui dit,
non, attendez, ne partez pas comme cela. Vous allez vous faire prendre.
Qu'importe.
Si vous vous faites prendre, je serai prise moi aussi.
Non. Il faut faire comme si un voleur s'était introduit dans la maison. Elle voit qu'il réfléchit. Elle va l'embrasser sur la joue. Elle lui dit,
je tiens à vous, vous êtes bon. Si nous en sortons, je serai votre femme.
C'est vrai? Il la prend dans ses bras. Elle a un sursaut de recul.
Je vais vous donner la clé de la porte de service.
Les domestiques sont absents ce soir. Faites comme si un voleur s'était introduit dans la maison. Moi, pendant ce temps, je passerai la soirée chez une amie. Attendons le soir. Il l'embrasse et lui dit,
vous serez à moi, rien qu'à moi.
Oui, oui. La fait asseoir sur la chaise et s'assoit sur le divan. Il faut attendre. Il lui demande,
ça fait longtemps que votre père se comporte mal avec vous.
Depuis la mort de mère, il y a 2 ans.
Et vous n'avez rien dit à personne?
Non.
Par vous, à qui aurais-je pu le dire?
C'est un père indigne. Il veut la prendre dans ses bras, elle se dégage.
Pardonnez-moi, mais ce n'est pas le moment.
Le temps est venu, ils ont quitté la chambre, elle est âgée chez une amie, lui chez le père, il a la clé dans sa poche. Sûr de lui, mais un peu intimidé, il ouvre la porte de service avec la clé. Pas de bruit, tout semble calme. Il monte à l'entresol en longeant les couloirs. En haut, il voit que le salon est allumé. Il entre. Voit le père qui est en train de lire. Surpris de le voir, il lui dit,
mais comment êtes-vous venu? Vous désirez?
Félicien se sent troublé, puis reprend ses esprits. Il voit sur le piano le portrait d'Émilie. Sa fureur reprend.
Monsieur, ce que vous avez fait à votre fille est ignoble.
Le père se lève, surpris.
Comment, monsieur?
Félicien s'approche de lui.
Vous n'avez pas honte?
de traiter votre fille comme une femme?
Comment, monsieur?
Vous êtes un père indigne.
Je ne comprends pas, monsieur. De quel droit?
Émilie est venue chez moi. Parce que vous l'avez violentée.
C'est ridicule.
Elle m'a montré les traces de bleu. Parce qu'elle a été... Elle s'est défendue. Vous l'avez tapée.
J'ai assouvi, monsieur. Vous bafouillez, vous savez pas ce que vous dites. Sortez.
Non, monsieur. Le père court vers une commode pour ouvrir un tiroir et en sortir un pistolet. Félicien le voit. Avant qu'il n'ait visé, prend de la cheminée qui est derrière lui une statuette. C'est une femme nue en marbre et la lui jette. Ça l'a atteint au visage et est tombé à terre. Félicien court vers lui. Il voit qu'il est mort, prend peur, puis se souvient de ce que lui a dit Émilie. Il court dans la pièce et jette tout ce que ses mains peuvent attraper. Avoir fait ça dans les autres pièces, il se sauve. Une fois dehors, il se dit :
je n'ai pas tué comme elle l'avait prévu, mais je l'ai fait par légitime défense. C'est mieux.
De retour dans sa chambre, il attend Émilie en buvant un café. À 23h, elle vient aux nouvelles, est toute excitée. Alors, il lui dit, c'est fait comme prévu. Je ne peux pas rester plus, je dois rentrer. Et elle le quitte. En entrant chez elle, elle voit le carnage et son père mort. Ceci lui fait malgré tout un choc. Elle sort de l'appartement en courant et court chercher du secours. Enfin, elle trouve un poste de police. Elle explique ce qu'elle a vu à un agent qui l'a fait attendre. Et il la ramène chez elle avec deux policiers. Là, elle s'effondre. Les policiers lui disent de passer la nuit ailleurs, qu'ils vont mettre les scellés. Les voisins ont été réveillés. Une voisine la prend par l'épaule et lui dit « Venez, ma pauvre petite, vous allez passer la nuit chez nous. » Le lendemain, enquête, interrogatoire, visite de l'hôtel. Le corps était enlevé. 3 jours plus tard, Émilie retourne chez elle. L'enterrement a lieu. Elle a demandé à Félicien d'y assister. La police cherche toujours le ou les coupables. On enquête dans le quartier, mais rien. Émilie a dit à Félicien d'espacer ses visites. C'est ce qu'il fait. Il la trouve belle dans sa robe de deuil. Après votre deuil, nous nous marierons, n'est-ce pas? Oui, plus tard.
Elle croit qu'il a tué par sang-froid à cause d'elle et n'a aucun remords. Lui non plus, mais il est content que son crime se soit transformé en légitime défense. Le temps passe. Émilie est très prise. Elle reçoit beaucoup de gens qui viennent lui demander son affection. Il demande de l'argent aussi, et certains lui donnent leur affection. Certains après-midi, elle se promène avec Félicien dans le jardin du Luxembourg. Félicien qui compte les jours.
Encore un mois. Vous n'avez pas hâte d'être ma femme?
Elle lui sourit d'un air triste.
Salon d'Émilie. Félicien est assis près d'elle et fait un geste pour l'embrasser. Elle se retire. Cela l'irrite.
Pourquoi?
Parce que nous ne sommes pas encore mariés et si un domestique nous voyait.
Et puis, il faudra venir moins souvent maintenant.
Vous m'aimez donc plus, après tout ce que j'ai fait pour vous?
Mais si, je vous aime.
Elle se lève et marche dans la pièce.
Yeah, c'est qu'il faut que vous pensiez aux convenances. Vous oubliez, c'est que je suis veuve de mon père et que je dois bientôt officiellement hériter.
Il se lève.
Bon, je m'en vais.
Ne soyez pas forcé.
Mais si.
Non, mais je suis triste, voyez-vous.
Lui baise la main et se dirige vers la sortie de la pièce.
Attendez, je vais vous raccompagner.
Pas la peine.
Et il sort de la pièce.
Ils ont souvent des scènes que de ce genre. Quelquefois, Félicien se dit qu'elle ne l'aime pas. Elle a enfin hérité, ce qui lui fait une bonne rente. Pour fêter cela, ils ont décidé qu'ils passeraient un après-midi sur le bord de la Seine. Le ciel est bleu, l'air est doux. Après cette promenée, ils se sont assis à une tonnelle pour manger du fromage blanc, salade et du pâté.
Tout à coup, elle pousse un cri.
Oh! Que vous arrive-t-il?
Je crois avoir été piqué par une abeille.
Oh!
Là, dans le cou.
Attendez, je vais voir s'il faut vous enlever le dard. Il se penche dans la main. Elle recule effarouchée.
Laissez-moi faire. Je ne peux pas vous me toucher.
Cela est ridicule.
Non.
Elle se lève. Il est furieux.
Eh bien, tant pis.
Si vous craignez tant que je vous touche, vous resterez ainsi. Elle lui dit.
Non, au lieu de vous fâcher, j'ai atrocement mal. Demandez du vinaigre avec du coton.
C'est ce qu'il fait. Elle se soigne elle-même. et lui dit « Je vais finir par croire que vous ne m'aimez pas. » Une fois qu'elle s'est soignée, il hausse ses épaules et dit « Je crois qu'il vaudrait mieux que l'on rentre après le repas. Comme vous voudrez. » Il en a assez de ces scènes et veut en finir. Un soir, il va chez elle. Elle le reçoit au salon. Il est venu parce qu'il savait que les domestiques étaient en congé. Avant de s'asseoir, il lui dit « Émilie, je n'en peux plus et je veux savoir ce qui en est entre nous. C'est pour cela que je vous renouvelle ma demande en mariage et vous demande aussi de bien vouloir fixer une date pour la cérémonie. » Elle le regarde fièrement et lui dit « Vous avez raison de vouloir en finir. Moi aussi j'en ai assez. Je vais vous parler franchement. C'est non, je ne veux pas me marier. Pourquoi ?» Parce que ce n'est pas que mon père que je déteste, mais c'est tous les hommes, avec ceux que vous avez entre les jambes, vous me dégoûtez. La première fois où ça m'a dégoûté, c'est lorsque j'ai vu mon petit frère nu. Et ma mère s'extasiait devant lui. Elle l'appelait mon petit ange. Moi, je ne comptais plus. Il était beau, mais moi, elle ne me voyait plus. Il me dégoûtait. Avec cette chose horrible qu'il y avait entre les jambes, cela me donnait envie de l'étouffer. Et mon père, je ne supportais pas l'avoir près de moi, car je savais qu'il était comme le petit frère. C'est peut-être même en plus laid que lui. Je n'aime pas les hommes. Vous me dégoûtez, et toi aussi tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Mais moi, je vous aime, Émilie. Je vous l'ai prouvé et vous trouve très belle. Je vous apprendrai à m'aimer. Vous n'avez pas connu l'amour. Comment pouvez-vous juger ? Il la prend dans ses bras et se dégage. Je vais vous montrer que je peux vous apporter le plus grand plaisir qui soit. Il cherche à la prendre dans ses bras. Elle se débat. Il devient furieux. Il la fait tomber à terre. Elle est furieuse. Elle se relève. Elle court prendre sur la table un coup de papier et se rue sur lui. Il n'a pas le temps de réagir. Elle lui enfonce dans le cou le coup de papier. Le sang gicle. Le coup de papier est resté dans le cou. Félicien, le visage horrifié, la main à la gorge, tombe la tête la première. Émilie le regarde. C'est bien fait pour toi. Et maintenant, que vais-je faire de ça ? Même mort, il nous couche des ennuis. Elle se met la main au menton et réfléchit. Puis, tire le corps pour le sortir de la pièce. Elle a longé le couloir et ouvre une petite porte en bas des escaliers. Il y a des escaliers. Elle pousse le corps avec ses pieds pour faire dégringoler les escaliers. Prend une lampe à pétrole qui est accrochée au mur, puis elle descend elle-même les escaliers. Là, c'est la cave. Elle retrouve le corps au pied des escaliers. Il y a des tas de rayons de bouteilles de vin. Alors, elle pose la lampe à terre et elle va chercher une pelle pour creuser. Une heure plus tard, épuisée, le corps était lourd, elle remonte à sa chambre, vers sa toilette et se coucher. Le lendemain matin, elle a le mal de partout. Sa femme de chambre, une petite jeune blonde, qui la peine, lui dit « Madame a mauvaise mine, elle devrait changer d'air et se reposer. » « Tu crois ? Oh oui, madame. Où pourrais-je aller ? Je ne sais pas, moi. Un petit voyage, il paraît que l'Italie, l'air y est très bon. Tu as raison. » Durant toute la journée, elle réfléchit et se dit que le dépaysement lui ferait du bien. Mais partir en voyage comme cela, seul, cela lui fait un peu peur, car il n'est jamais vraiment parti. Et partir avec qui ? Elle ne connaît personne, n'a pas d'amis. Et à force de réfléchir, elle se souvient que dans son enfance, il y avait une compagne d'école qui était très gentille avec elle. Elle faisait que de l'embrasser. Oui, ce serait merveilleux de la retrouver. Cette chère Mathilde, et dire qu'elle habite à deux pas d'ici et que l'on ne s'est plus revu depuis l'enfance. Dans l'après-midi, elle sonne chez Mathilde de Saint-Alban. La jeune femme la reçoit dans son salon. Elle vit seule à Paris. Ses parents sont dans leur propriété de Bourgogne. C'est une femme mince, presque maigre, visage osseux, lèvres pulpeuses, les cheveux qui ondulent longs et noirs. Sa peau est très blanche. Elle est habillée d'une robe de cheval marine. « Bonjour Mathilde, je suis Émilie. »« Émilie ! » Mais quelle surprise ! Elle accourt vers elle et l'embrasse. La tient fortement dans ses bras. Cela fait si longtemps que l'on ne s'est vu. Oui, dit Émilie, je suis coupable, mais j'ai eu tant de malheurs. Non, c'est moi la coupable. J'aurais dû te rendre visite, mais j'avais peur de te gêner. Et puis, je croyais que tu ne te souvenais plus de moi. Oh non ! Mais maintenant, nous allons rattraper le temps perdu. Je suis venue pour cela. Mathilde la prend à la taille et lui dit « Viens me raconter tout ça, mon chou. » Elles vont s'asseoir sur un divan. Voilà, depuis la mort de père, je me sens pas bien. Et cette grande maison me fait un peu peur. Alors j'ai décidé de faire un voyage en Italie. Mais comme je n'aime pas voyager seul, j'ai pensé à toi. « Oh ! Quelle idée merveilleuse !» Elle l'embrasse près des lèvres et lui dit « J'accepte avec joie, mon chéri. » Émilie lui dit « Nous partirons dans une semaine. » semaines plus tard, elles sont parties, bras dessous, dans la berline. Mathilde ne fait que des mamours à Émilie. La première nuit se passe dans une auberge où on leur donne deux petites chambres. Mais, dès sortie de leur chambre, les mamours recommencent. En Italie, à Rome, elles ont trouvé un hôtel, mais qu'une seule chambre a un lit. Seule dans la chambre avec son amie, Émilie se sent gênée de se déshabiller devant elle. Il n'y a pas de paravent. L'autre le fait sans embarras et elle voit avec surprise qu'en un rien de temps, elle est nue devant elle, complètement nue. Mathilde sourit à sa surprise, hausse ses épaules et lui dit « Nous sommes des femmes, ne vaut pas être gênées. » Elle s'approche d'elle. « Ne sois pas idiote !» Elle lui enlève son jupon et la déshabille toute. « Ne trempe pas ainsi, tu es très belle !» Elle lui caresse les épaules, les seins, lui embrasse les lèvres. Émilie est surprise, mais tout cela bon. Mathilde sent sous ses mains ses seins se gonfler. Elle sourit. « Viens, ma chérie !» Elle la prend par la main et la couche sur le lit. Elle s'est couchée sur elle, lui caresse ses cheveux. « Tu sais, tu es très belle. Nous n'avons pas besoin d'homme pour faire l'amour. » Elle met sa main entre ses cuisses, les écarte. De l'autre main, elle la met en position et lui met un doigt dans la chatte. Émilie pousse un cri. Un peu de sang et le plaisir dans tout son corps. Le lendemain matin, Mathilde réveille Émilie. Émilie se sent toute chose, mais elle a aimé. Elle n'a pas été dégoûtée. Mathilde lui demande « Comment te sens-tu ? » « Bien. J'ai jamais été aussi bien. » Mathilde l'embrasse sur les lèvres et la caresse.
« Mademoiselle, vite, le peignoir, oui, madame, tout de suite. Zobacz, no jak ty się urządziłeś, cały jesteś w piasku. I buzia, i włosy. »
Elle passe tout leur séjour, bras dessus, bras dessous. Et où se prennent à la taille en se promenant dans Rome. Les nuits se font amoureuses. Émilie est très heureuse et a tout oublié. Le mois passe et il faut malheureusement rentrer. Arrivé à Paris, il faut se séparer. Cela est dur, mais il faut que Mathilde rejoigne ses parents, car sa mère est très malade. Je reviens très vite. Émilie retourne à son hôtel et passe son temps à lire et à attendre sa bien-aimée. Ses mains lui manquent tellement que, des nuits, elle se caresse et se met un doigt dans sa chatte. Un matin, Émilie, en lisant la gazette, apprend que Mathilde a trouvé la mort dans un accident. Sa berline est tombée dans un ravin. Un orage subit en pleine montagne a désorienté le cocher qui était un peu amoché, mais qui, lui, n'a été que blessé. Cette nouvelle fait une peine immense à Émilie. Elle pleure beaucoup. Va à son enterrement et chaque jour, durant 3 mois, vave sur sa tombe. Elle n'a jamais souffert de la mort des siens, mais souffre jusqu'au plus profond d'elle-même, Mathilde, car Mathilde lui apportait le plaisir et Émilie souffre parce qu'elle est égoïste. Mais le temps passe. Elle s'est durcie et est devenue une vraie et honorable vieille fille comme on les aime. Après Mathilde, aucune liaison amoureuse. Elle a été plusieurs fois demandée en mariage et à chaque fois, elle a refusé. Comme il faut, elle a appris les manières. Tout ça trouve bien, sérieuse, pieuse, va à la messe tous les jours, cela lui fait une sortie. S'occupe d'œuvres de bienfaisance, reçoit que des femmes chez elle, et des femmes plutôt vieilles. Ne va ni aux soirées ni aux spectacles. Un jour, le jour de ses 50 ans, se sentant lasse, trouvant que s'occuper de son hôtel lui était pénible, décide de prendre pension chez les religieuses. Là, on lui donne une chambre. À part les repas et la messe, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Elle s'y trouve bien. Le 4 mars 1869, Lamartine meurt et Émilie aussi. Son hôtel a été vendu et le nouveau propriétaire le détruit. Les ouvriers trouvent sous la cave un squelette d'homme avec au cou un coupe-papier. Radio Canu vous a présenté dans sa série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Dame de Pique. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
CVRP, cinéma, vidéo, radio.